de la volonté de Dieu. Les mitzvot, c'est la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de taram. Okay? Mais le taram n'est pas une passion. C'est une racine proche, très très proche. Hein? Mm-hmm. Très proche.
Kina, c'est le Kana.
Kina, c'est Aleph. Okay? Et Kanos avec.
Non, je pensais
autre chose,
c'est que...
La jalousie.
Et
Kina. Ah non, c'est pas...
C'est ce qu'elle veut dire, c'est...
Non, le mot Kina.
Ken.
De toute façon, Kina, les premières lettres de Kina, c'est Ken.
Ken. Mais
il y a
mais
pas de plus qu'un jeu de mots.
Et la jalousie, c'est... C'est-à-dire, voilà, et il y a entre la racine Kano, acquérir, et la racine Kano, et la racine Kano avec Aleph, jalousie, il y a un sens commun. Être exclusif. Exclusif. En Kana. Ça veut dire que la relation de propriété est exclusive. Elle implique la Kina. Et Elkana, connaît Shamaim Baaret, alors il est Elkana. C'est à moi. Alors je suis jaloux, ne va pas chez quelqu'un d'autre. Ça. Donc c'est relié avec Ken. Bon, le principe est très simple finalement. Et. Ce que nous voulons exclure déjà dans le premier enseignement, Kina Bema Sebrechi, cette forme de dualisme-là, d'où ça viendrait? Ça viendrait de ce que la motivation du Créateur, c'est une motivation de passion, ça viendrait de Rachamim. C'est Rachamim qui est sélectif. C'est clair? Pas encore. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui introduit la dualité dans la relation entre Dieu et le monde? C'est précisément que sa relation soit au niveau de Rachamim. Rachamim, c'est une émotion, c'est une passion. C'est la passion qui est sélective. Alors qu'il y a un niveau supérieur, l'ordre de la volonté est universel, concerne toute la créature. Ce n'est que si je motive l'exérot par Rachamim, alors que j'introduis tout de suite le principe de distinction entre cela et cela. Pour cela j'ai Rachamim, pour cela j'ai pas Rachamim. Et il y a un verset très clair. Vechamti et asher achon, verichamti et asher arachem. Caprice. Oui. Et alors là aussi, c'est vrai, mais on dit, on ne parle pas comme ça. C'est vrai, mais on ne parle pas comme ça. Parce que ça brise l'unité de l'ordre universel. Parce que vraiment, il y a là, d'une manière comme de l'autre, une motivation qui met atteinte au principe de l'unité et qui réintroduit le dualisme. Je pense que c'est clair. Mais vous voyez pourquoi le Or HaHaim dit que c'est un mystère. Enfin, mystère, c'est pas le mot, il n'y a pas le mot de mystère en hébreu, mais. C'est vraiment le mystère fondamental. De tous mes maîtres, j'ai entendu la même chose, quel que soit leur chita, la même chose. En fait, quand on arrive au mystère fondamental, c'est Israël. Asher Tziva, Asher Lemor Daver el Bene Israël, c'est ça le choc.
Depuis tout à l'heure, moi j'ai beaucoup de mal à suivre aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est parce que c'est fatigue, bien si c'est parce que ça va tellement vite que je veux dire. Mais je crois qu'on parle de l'élection depuis le début. Est-ce que c'est qui s'est
changé? Bien sûr, enfin, je n'ai pas dit le terme, mais c'est évident. C'est-à-dire que ce qui nous est interdit ici, c'est dans la prière de forme de. Comment dire, de se formuler de manière telle que on va poser ce problème d'une préférence de Dieu pour une catégorie de créatures. Et deviendrait qu'il y ait préférence, c'est que la motivation de sa volonté serait de l'ordre de la passion et non pas de l'ordre de l'universel, de la xéra. Je crois que là est le point central. Quelles que soient les explications que nous pourrons comprendre pourquoi Dieu a choisi Israël, nous ne les comprenons finalement qu'a posteriori. C'est beaucoup plus une explication a posteriori, une justification, que là il y a un saut, là il y a un mystère. Les deux choses sont vraies. C'est-à-dire, voilà la difficulté, les deux choses sont vraies. Dieu est un absolument, sur le bien comme sur le mal. Toutes les formules, enfin, tous les problèmes du dualisme. Et cependant, il est vrai aussi que Asher Bacharbanou Mikola Amim, et que Dafka, c'est Israël qui est Tzipor Noded Algag, c'est le Tanmesher Yarir Kino, c'est Israël qui est le Ken de Akadosh Baruch. Tout ça est vrai. Et pourtant, il ne faut pas le dire. Et parce que, comme dit le Pshat de la Gemara, Mipenesh et Metil Kina, vraiment, c'est plus. Regardez, c'est le même, c'est le Mirachim qu'a cité Rachim. Parce que le Satan et le monde à Olam ont contesté. Ils ont dit, là, de quoi vous sortez? Et qu'est-ce que c'est? Dieu, c'est le Dieu de tous. Pourquoi on vous a donné à vous ces privilèges? Que le Tamé peut devenir Tarour et que.
Il ne faudrait pas répondre, par exemple, que Dieu a choisi Israël parce qu'ils ont dit que c'est dans la Sève Nishma, ils n'ont pas demandé les femmes.
Oui, mais il n'y a qu'Israël qui a dit dans la Sève Nishma. Le mystère rebondit. Et pourquoi Israël est celui qui a dit dans la Sève Nishma? C'est que Dieu l'a créé comme ça.
Qui répond que dans la Sève Nishma.
Comment? Attendez, non, qu'on finisse avec. Okay. Vous comprenez? C'est pas n'importe qui a dit dans la Sève Nishma.
Oui, c'est ça. Pourquoi
Israël a dit dans la Sève Nishma?
Mais cette préparation a été offerte à l'humanité entière.
Elle n'a pas eu, mais pourquoi? A posteriori.
Ah oui, tout ça,
a posteriori.
On comprend comment ça s'est passé. Je veux dire en hébreu. Alors, nous venons, erze ma metafket. On comprend comment ça fonctionne. Mais pourquoi ça concerne Israël, on ne comprend pas. Je veux dire que finalement, on finit par comprendre. Mais ça reste un mystère. En tout cas, vous voyez, comme on a vu un peu hier dans un autre registre à propos d'Agador, la Gibor, Vanora, on ne peut pas comprendre avec le langage humain. Il faut se référer au sens des mots que le monde dans le Lashon HaKodesh.
Est-ce qu'on peut comparer à une famille, puisqu'on dit qu'Israël est le Béchor,
oui.
Dans une famille où il y a l'aîné, et les parents font tout leur mieux pour éduquer l'aîné, pour lui donner toutes les directives. Et après, les autres frères et sœurs sont évidemment jaloux parce que c'est l'aîné qui est là, qui donne l'éducation.
C'est le même problème. D'ailleurs, les goyim oublient que quand on dit d'Israël qu'il est le frère aîné, ça veut dire que les autres aussi sont des frères, que les autres aussi sont des fils. Okay? Ça, ils oublient. Mais le mystère, c'est cela. Pourquoi c'est celui-là qui est l'aîné et pas quelqu'un d'autre? Le problème, ce n'est pas dans la forme de la fonction du Yotse Minaklal qui est le Bechor. Voilà pourquoi c'est lui.
Pourquoi faut-il être qualifié pour être l'aîné?
Comment?
Il faut être qualifié. En général, c'est le cadet qui devient l'aîné dans l'histoire.
D'accord. Sauf. Quelle que soit la complexité.
Non, je veux dire, ça évacue la.
Bon,
le rachamim.
Tout ça, c'est à posteriori. Mais malgré tout. Mais malgré tout, la question, là. Peut-être dans un autre séminaire, nous verrons le texte du Rav Kook d'accord sur ce problème. Abraham Ohavi. Abraham Ohavi. Je vais expliquer. Nous savons bien que. On peut comprendre a posteriori que ce n'est pas arbitraire. Ce n'est pas arbitraire, mais ça reste gratuit. Il y a des raisons, mais le mystère reste. Je vais dire ceci. Peut-être que j'en parlerai à propos de Purim plus longuement à l'Omer Shabbat, de ce Shabbat. C'est ceci. Nous disons, peut-être j'en ai parlé peut-être une fois avec vous, mais c'est un sujet qui m'a été souvent posé à Mayanot. Nous disons qu'il y a une alliance entre Dieu et Abraham. Mais nous avons tendance à penser que c'est Abraham qui a pris l'initiative de l'alliance. C'est pas vrai. C'est Dieu qui a pris l'initiative de l'alliance. Abraham au Ravi. Voilà, Dieu un jour fait une déclaration. C'est Abraham que j'aime. Bon, nous savons très bien qu'Abraham n'est pas n'importe qui. Et que Dieu ne dit à Abraham au Ravi, et Dieu ne dit à Abraham au Ravi qu'à Abraham, c'est celui qui est prêt à ce que Dieu lui dise cela, à qui Dieu le dit. Mais c'est Dieu qui le dit. C'est pas, ça commence pas par l'homme. Comment commence l'histoire d'Abraham? L'Echecha. Bon, nous savons très bien que la théologie chrétienne ici est fausse, que c'est par décision arbitraire, grâce arbitraire, que Dieu a choisi Abraham. Imaginez que Dieu un jour a dit, bon, il m'en faut un, je prends celui-là, caprice. C'est ça la théorie de l'élection chez les chrétiens. Et la tradition juive refuse cela. Le récit de la Torah ne commence pas avec Abraham, il commence à Adam Rishon. Pourquoi on nous explique d'où sort Abraham? C'est pas n'importe qui. Mais... Et seulement, le sens de l'alliance n'est pas que c'est l'homme qui a choisi Dieu. C'est Dieu qui a choisi cet homme. Il n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi celui qui était prêt à être choisi. Alors, pourquoi nous sommes rassurés que c'est Dieu qui choisit? Là, nous savons qu'il n'y a pas de caprice. Parce que si c'est Abraham qui choisit Dieu, un jour il choisit Dieu, le lendemain il ne choisit pas Dieu. Tandis que si c'est Dieu qui a choisi Abraham, garantie, irréversible, vérité, en l'âme. On est tranquille. Je disais, c'est ça le grand niveau.
Il a choisi de chercher.
Abraham cherchait. D'accord. Mais c'est pas n'importe qui. Seulement, donc c'est pas arbitraire. Mais oui, le mystère, c'est qu'Abraham était Abraham.
Oui.
C'est ça. Et c'est-à-dire, nous comprenons a posteriori, mais a priori, ça reste donc les deux choses sont vraies. Ici, nous avons une Gemara très, très juive, très pleine d'humour. Et imaginez que ce qui est interdit sous peine de définition d'hérésie, c'est la vérité elle-même. Attention, ne dis pas ça trop fort, c'est hérétique. Mais c'est vrai. Vous avez compris.
Le mot mystère en français est dangereux parce qu'il a une telle connotation
qui
peut éviter de l'entendre. Malgré soi, on dit c'est mystère.
C'est sode. Et finalement, c'est un sode que, en fin de compte, nous pouvons comprendre dans la perspective du Naaseh Benishmar. À force de vivre cela, alors on comprend. Alors on comprend. Mais on ne pourra jamais expliquer ça, ni au Satan, ni au Motarola. Alors on ne parle pas de ça. Voilà. Mais vous voyez dans quel piège on est tombé. C'est de croire que ça veut dire qu'il n'y a pas de Taram. Et vous voyez comment les grands comme Maïmonide et Nachmanide se sont attrapés là-dessus à cause de la gravité du problème. Ne dis pas qu'il n'y a pas de Taram. Il y a un Taram. Mais le Taram, c'est Sod. Tu veux le comprendre? Alors regardez l'humour de Nachmanide. Eh bien, c'est que la Bina est appelée M, qui a 7 jours dans la Choupa. Quel rapport? De quoi il s'agit? Sod. On finira par comprendre. Mais les autres comprendront. Voilà, alors je ferme ça.
Alors, pour en revenir à notre
séminaire
précédent, c'est-à-dire que si on prend donc la première phrase sur laquelle nous discutons, la louange, c'est pas de la louange. On ne peut pas louer, c'est même qu'on ne peut pas prier n'importe comment. Puisque l'équivoque de la louange ici, c'est que d'une part, c'est une reconnaissance, mais c'est une reconnaissance blasphématoire. Donc il faut la taire.
Avec risque de blasphème. Donc il faut la taire.
Donc on voit bien ici le lien, parce qu'on doit certainement y avoir un lien entre la louange et la prière. Il y a un rapport entre les deux.
Ça, on a étudié. Bien sûr. Ça veut dire la louange est le véhicule de la prière. La tehila est le véhicule de la tefila. Ça, nous avons, si vous voulez, on peut étudier maintenant. Nous avons une chose dans la Gemara très, très claire. Pourquoi Anshek Nesed Agudala ont fixé 18 bénédictions qui sont 19? Parce que David Amelech a dit 18 psaumes qui sont 19 avant de dire le verset Iyu le ratson imrefi ve yon libi le panecha Hashem Sreuval. C'est-à-dire, donc nous gardons la structure de la tehila qui est le véhicule de la tefila. Et c'est-à-dire que dans le moment même, dans le projet de demander quelque chose à qui je demande, je dis à qui je demande. C'est ça la tehila. Je vais vous dire ça un peu de façon très, très schématique. C'est ceci. Prenons la première bracha du Shmoné Esré. Ata chonel nadam darat, umlamed le enosh bina, vechonenu meitecha de abina veaskel. Donc, qu'est-ce que je dis par là? Baruch ata Hashem chonel nadam. Je dis, je sais qui tu es, je connais un secret. Je sais que ata chonel nadam darat. Alors donne-moi. Bien. Oui, le fonctionnement. Ata chonel nadam darat, c'est la tehila. Je te définis, parce que je sais, je connais ce secret-là. Ne me dis pas que tu ne donnes pas, parce que je sais que tu donnes ça, c'est ta définition. Alors donne-moi. Donne-moi si je mérite, c'est tout le problème de la tefila elle-même. Il te parle de jugement, vous rappelez de ça. Okay? Et je pense que c'est clair. Et alors, voilà pourquoi, on n'a pas le droit d'employer n'importe quoi, quelle forme de tehila. Vous rappelez la suite de la Gemara. Et quelqu'un qui commence à dire, Aher, Agador, Adibor, Anora, Aizouz, Adibor, est-ce que tu sais de quoi tu parles? Et d'abord, est-ce que tu as le droit de t'arrêter? Oui,
parce que ça suppose, la louange comme la prière suppose tout un travail, le fameux taam. C'est-à-dire
un travail de?
Le travail, c'est la question du taam, c'est la question du travail aussi, c'est-à-dire la question de trouver de quel principe ça procède. Et non pas, parce qu'à travers ça, c'est toute la contemplation mystique, toute
l'enfant
esthétique, tout ça est complètement...
Très bien.
C'est pas sérieux.
La bouillie sucrée. C'est tout à fait. Top. Très, très bien. Bon, alors on va un peu avancer. Oui.
Pour revenir, d'un côté, d'Israël, venir au Corio. Et de l'autre côté, nous voyons quand même que beaucoup de l'Israël, justement, n'étaient pas des Bechorim.
Attendez, beaucoup de qui?
Des Avot et des autres n'étaient pas Bechorim.
On dit Bechorot, mais après ça va.
Bechorot, oui. On était des tables de Bechor. Donc il y a une...
Mais qui par exemple?
Bon, qui traque...
mais le bechor de sa mère.
Yaakov.
Yaakov est le vrai bechor.
Yosef.
Il est le bechor de sa mère.
Et Abraham est le bechor.
Et le prophète de Judas ne plaît pas.
C'est le
vrai. Vous prenez Moshe, Moshe n'était pas le bechor.
Bon, mais ça c'est son grand mérite. Il a fait, c'est son grand sroute, il a fait le tikkun de Caïn et de Abel. Je vais vous parler un peu de ça, en vous citant le Shla.
Abraham était Bechor ou non?
Regardez le texte dans la généalogie de Terach. Bon, on n'est pas créé. Les éléments sont complets.
Non, mais regarde.
Ici, Shiva Caïn, Yukam Caïn. Vous vous rappelez, après le meurtre de Abel par Caïn, Caïn a un sursis de cette génération.
Répétez verset qui?
Qui? Shivarataim, Yukam, Caïn.
Qui? Shivarataim, Yukam, Caïn.
Alors c'est écrit sans le bas.
Je l'ai dans le texte. Alors le chat en se basant sur un verbe.
Shivarataim écrit sans vase?
Comment?
Et quel mot qui écrit sans vase?
Yukam.
Yukam.
Il dit ceci. Et finalement, toute cette querelle entre Caïn et Abel va se retrouver dans l'opposition de civilisation entre l'Égypte et Israël. Simplement, je vous donne une dimension du problème. C'est que la Torah dit clairement que l'Égypte avait les bergers en horreur. Okay? Et la relation de possession qu'il y a entre le pharaon et la terre et le peuple, il est le possesseur, il est le Caïn. Hein? Alors que en Israël, le Kohen, Dafka, ne doit pas posséder, il est le Roé. Hein? Oui, je vous dis là, il est très, très, très général, très, très schématique, c'est plein de précisions, mais pour aller dans notre point. Quand Rav Zohar explique que le tikkun du chet de Caïn sera fait par Moshe. Comment? C'est-à-dire qu'avec Moshe, c'est Abel qui triomphe de Caïn. Alors il va le montrer à différents niveaux, et puis après vous me rappellerez pourquoi j'ai cité cela, à propos de...
Al-Bechor.
Ah, Al-Bechor. Alors voilà, je vous rappelle simplement un plan des cinq noms de la Neshama. Ok? Nefesh. Gouar. Neshama. Haya. Et Yeshiva. Alors la Neshama de Moshe a eu à se mesurer avec les cinq niveaux de la Neshama de Caïn. Et vous allez voir ce qui se passe. Ici, au niveau du Nefesh, il a triomphé du Mitzri. Al Nefesh Achotet Hitamut. Moshe a annulé le Nefesh de Caïn en annulant le Nefesh du Mitzri. Le Mitzri, c'est au niveau de Nefesh. Ensuite, au niveau du Ruach, il a été aux prises avec la machloquette, le Korach. Au niveau de la Neshama, il a été en relation avec Yitro et ça s'est arrangé. Et là apparaît déjà Yukam. Okay? Le niveau supérieur, c'est au niveau de Chaya Aharon et au niveau de Yechida Yosef.
Yosef?
Yosef, okay. Bon. Alors, tout ça c'est plein de citrés Torah, mais vous comprenez un peu la relation. Voilà, ici, à ce niveau-là, au niveau de Chaya de la Neshama, le tikkun de la querelle entre l'aîné et le cadet, c'est le tikkun a été fait avec Moshe Aaron. Est-ce que c'est clair? Donc, là, nous voyons que Aaron reconnaît la Bechora de Moshe. Là, Caïn a reconnu, à ce niveau-là, Caïn reconnaît la Bechorale. Une minute. Vous voyez, l'ascension des niveaux où cette marloquette est finalement se résout au niveau le plus. Et le principe de l'amour des frères, c'est Yosef. Vous voyez, là, c'est très plein de soucis très précis. La Neshama de Yosef, c'est hors maquif et tout le reste est hors pnimi, mais c'est au niveau de Moshe Aaron. Oui, Moshe va à Rome, Bekoranav. Le point est le suivant, c'est que la Torah ne peut être donnée que précisément à l'identité qui a résolu le problème Caïn Abel. Okay? Regardez comment ici, Rabbi Akiva est très grand. Je pense que c'est clair. Et je vous donne un remède qui est dans le Kli Yakar, à propos du problème suivant. C'est pas par hasard que le matin de Torah, c'est le Chag HaShavuot qui est Chag HaBikurim. Parce que la grande compétition entre Caïn et Abel commence par la compétition des offrandes. Et c'est Abel qui fait l'offrande de Bikurim. Parce qu'il il donne la première part à Dieu. Parce qu'il considère que l'autre passe avant lui. Donc il est le Rebecho. Alors que Caïn avait offert comme offrande de l'offrande de Chag HaAsif, après la récolte. Vaïi miket yamim, vaïave Caïn mincha l'achet. Il se sert d'abord, et après, le reste, il donne comme offrande. Voilà la compétition. Donc, c'est Dafka au Chag HaBikurim qui est donné le matin Torah. Okay? Alors, le Kli Yakar fait un remez que, du point de vue des Mazalot, le Mazal de Sivan, c'était Omin. Les jumeaux. Vous voyez comment le remet. Alors c'est là que ça se résout. Donc, alors vous voyez tout le problème.
Quel est en deux phrases, le Yukam, là, de Vav de Yitro, le rapport entre Yukam et Yitro, je ne sais pas très bien.
Ça veut dire qu'il y a, si vous voulez, relation de la Neshama de Moshe qui récapitule la Neshama de Hevel à tous les niveaux de la Neshama. Alors, au niveau le plus inférieur, au niveau du Nefesh, c'est le Mitzri qui apparaît. À un niveau plus supérieur, Ruach, c'est la Machloket avec Korach. À un niveau encore plus supérieur, Neshama, Bina. Alors, c'est la relation avec Yitro. Et c'est une relation qui finalement se résout. Et puis, j'ai pas répondu, mais je paraphrase. Et puis, au niveau encore plus supérieur, c'est la relation avec Aaron. Et puis finalement, en fin de compte, c'est la relation avec Yosef. Et Moshe ne sortira pas d'Égypte avant de ramener avec lui les autres. Bon, enfin, on referme cette parenthèse, mais vous voyez que. Bon, alors nous avançons maintenant dans la Gemara. Alors, prenez la fin de la page. Il vous manque un de lignes, mais ça fait rien de vous d'abord. Et après, on commence notre nouvelle page. Maudit. Vous êtes donc à la quatrième ligne avant la fin de la page. Encore la page d'hier, hein? La page d'hier. Vous avez fait. Alors, maudit, mes chatés clignoto. Alors ici, la Gemara pose une question que nous allons tout de suite comprendre. La Mishnah dit, celui qui dit modim, modim, ça veut dire celui qui dit une formule de reconnaissance qui en elle-même est vraie, qui n'implique pas d'hérésie. Nous reconnaissons ta souveraineté, les hodot, et puis modim, nous te sommes reconnaissants de ce que tu fais pour nous, et on le fait taire. Pourquoi on le fait taire, hein? Amar Rabbi Zera, on va citer un enseignement analogue. Rabbi Zera enseigne Kola Omer, Shmar Shmar, Ke Omer, Modim Modim Dame. Tout celui qui dit Shmar Shmar, d'ailleurs Shmar Israël, ça ressemble aussi, celui qui le dit deux fois, ça ressemble aussi à Modim Modim. Donc on devrait le faire taire aussi. Et ici, le problème est simple, j'ai fait allusion tout au début du séminaire, le lundi matin déjà. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une distinction que je fais entre deux niveaux de la providence de Dieu. À l'un, je dis déjà maudit, et à l'autre aussi, je dis maudit. C'est-à-dire la répétition de la formule de reconnaissance est interdite parce qu'elle implique que je m'adresse à deux partsoufim différents, que je m'adresse à deux personnes différentes. Alors, Rabbi Zera dit, dans le même sens, tout celui qui dit Shmar, Shmar, Keomer, maudit, maudit, damé. Mais qui est, on l'objecte. Une citation, Akore Tchemar Vechofla, c'est-à-dire celui qui dit le Shemar, et le double, le redouble, le répète. Harezé Megouné, c'est une chose pas jolie. Megouné, c'est pas joli. Megouné, vous l'avez. C'est pas joli que c'est.
Et toi, tu me dis qu'on le fait taire. Et surtout que la mastinale,
on le fait pas taire. On dit c'est pas bien. Hein? Alors, pourquoi toi, Rabbi Zera, tu as dit que celui qui répète le chemin, on le fait taire. Ça ressemble à maudit maudit, on le fait taire. C'est la même chose comme s'il a dit un principe de dualité, de dualisme. Okay? En réalité, on nous a enseigné que c'est mégouné, que c'est pas bien. Et toi, tu le dis, on le fait taire. Alors, on va voir la suite. Hade amar milta milta, vetanela, le hade amar psuka psuka, vetanele. C'est-à-dire, il y a deux cas ici. Dans un cas, dans quel cas on a dit on le fait taire, c'est celui qui a dit milta milta, mot, il a répété mot après mot, shmar shmar, Israël Israël, Hashem Hashem, Elokeinu Elokeinu, hein? Ça on le fait taire. Veha ve'amar psuka psuka vedanele. Dans le deuxième cas, il a dit shma Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, shma Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est pourquoi vous avez dans certains rites, au moment où on sort la Torah, le Chazan dit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad et le Kahal répète Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ça c'est mégouné, on n'aime pas ça.
Dans tous les rites, non?
Non,
dans tous les rites.
Non, dans le rite Mikmaget.
Mais ça ne parle pas de la même chose. Alors si on répète
plus ou
moins, si on répète
avec. Donc ça ne veut pas dire la même chose, bien sûr. Mais en fait c'est pas interdit, hein, parce que ce n'est pas le même qui répète. Mais malgré tout, il y a certaines communautés où on ne le fait pas parce que ça serait lié à cette Gemara.
Hein?
À Kippour, oui. À Kippour, on se permet beaucoup de choses. Et on dit d'ailleurs que c'est bon, c'est un commandant de Dieu, on va y avoir. Remarquez ce qu'il y a ici. Faites bien attention. Il y a certains, dans certaines synagogues, on applique des mélodies sur des psaumes, sous des textes, ce qui fait que la mélodie oblige à répéter le nom de Dieu deux fois de suite. Ça, c'est complètement interdit. Celui qui dit Hachem, Hachem, c'est complètement interdit.
Il y a d'autres secrets aussi dans la tefila, c'est dans la Kedusha de Moussa. Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Echad. Et dans certains textes de prière, donc Echad, Tu Elokeinu, Avinu, Malkeinu. Et dans les Sidurim, les Mitnagdim, il n'y a pas le mot Echad. Pour éviter qu'on dise Shema Yisrael, Shema Echad, Echad.
C'est exact. Et chez les Sfardim aussi, il n'y a pas. Il y a Tu Elokeinu, Tu Avinu.
Alors que les Ashkenazim, ont
c'est ce que j'ai appelé les Tlanim, moi.
Non.
Oui, non, tu as raison.
Le Harbil.
Oui, un assassin, c'est pas un vrai. Hein. Bien. Et en fait, tout ceci se rattache à une autre Gemara qui se trouve dans le deuxième chapitre. Ce qui est interdit, c'est de dire Emet, Emet. Le grand principe commence là. C'est la raison pour laquelle, à la fin du Kriyat Shema, on dit
Adoshim Lokechem Emet Emuna Uvatsi.
Oui, on dit la fin du verset c'est Ani Hashem Elokechem. Et le commencement de la bracha qui suit c'est Emet, soit Emet Veyatsi, soit Emet Veemuna. Alors on veut dire Ani Hashem Elokechem Emet, mais ne pas répéter le mot de Emet pour le commencement de la bracha, et on commence par Veyatsi Veemuna.
Et si on répète Adoshim Lokechem Emet,
comment? Le Shalvi Artibur, c'est autre chose. Ben, si vous voulez, nous allons lire le texte en même. Voilà, je vais vous expliquer. Lorsque nous lisons, avec le Shema, si vous, nous lisons à l'échelle individuelle, le Shema, on termine en disant Ani Hashem Elokechem Emet, soi-même, okay? Et puis on attend que le Shema, si vous, dise Hashem Elokechem Emet, et on commence par Ve'yatsiv ou Ve'emuna. On ne répète pas soi-même le mot de Emet. Pourquoi on dit Ani Hashem Elokechem Emet? Parce qu'il ne faut faire aucune afsaka entre Hashem Elokechem et Emet. Aucune afsaka. Ben Hashem Elokechem Emet, le Hafsik. Et alors, pour ne pas faire l'afsaka, on a ajouté Emet. D'ailleurs, ça achève le nombre des mots. Okay. Et puisqu'on l'a déjà dit une fois, on ne le répète pas une deuxième fois. Alors, voilà quel est le principe de ce sens-là. Celui qui répète deux fois Emet, et ensuite, tout découle. Celui qui répète deux fois Shema, celui qui répète deux fois Moudim, celui qui répète deux fois Hashem, exactement. Introduit le doute. Vous comprenez? Si je dis c'est vrai, eh bien c'est vrai. Mais si je dis c'est vraiment vrai, c'est que c'est pas vrai. Et maintenant, alors tu n'es pas sûr. Et je vais voir comment la Gemara va expliquer.
Oui, mais on dit quand même, Hachem, on l'a dit deux fois.
Ça, c'est dans la Torah. Ça, c'est dans la Torah. Et vous verrez qu'il y a un pasik, comment on dit ça dans le Dharam Rambu.
Non,
d'ailleurs,
je vois
ce
Subhator,
hein,
on rappelle,
Vous avez raison. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a d'autres raisons. Ce sont les mérites des kabbalistes qui ont institué ça. Ils savent ce qu'ils veulent faire, etc. Mais ici, nous sommes dans la halakha de la Gemara, dans le principe lui-même. Et on n'a pas encore étudié la Gemara qui est dans le Tam. D'abord, le principe, le shoresh de tout cet enseignement est dans le, à propos du kriyashma, à propos du mohémet. On ne répète pas deux fois le mohémet. L'affirmation de la vérité n'implique pas de répétition. Pourquoi ? Ben pour le sens fondamental, élémentaire que on vient d'établir. Voilà comment la Gemara l'explique. Mais on est arrivé là qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux citations. On le fait taire quand il dit Shema, Shema, Israël, Israël. Lorsqu'il dit Shema, Israël, Shema, Israël, Shema, Israël, ça les mégouné. Ça, c'est pas joli. Okay? Bon. Souka, Souka, avait annulé. La suite. Amaré, Rapapa, le Abaye. Rapapa, objecté, Abaye. Mais Dilma, mais Ikara, la Kaven, Darfé, peut-être je peux expliquer ce qui est arrivé. Au début, il a dit le verset du Kriyat Shema, mais il n'avait pas vraiment encore Kavana. Ou le Kav Kaven, Darfé. Alors il a répété avec Kavana. Vous suivez ? Amarle. Abaye a répondu à papa, là vous n'avez pas la suite, mais je vais vous la lire. Havruta, Klapeshmaya, Minika. Voilà la réponse d'Abaye. Havruta, Klapeshmaya, Minika. Havruta, ça veut dire familiarité. Okay. Devant Dieu, ça n'existe pas. Ça veut dire que se conduire avec familiarité. Hein? Oui, ça c'est la lecture du Pshat, un peu plus profond. Havruta, répéter, okay, devant Dieu, c'est insolent. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu entreprends de dire Shema Yisrael, Shema Grave, et tu n'as pas encore Kavana. Okay. Et après tu te dis, bon, je l'ai dit une fois, mais je n'ai pas eu Kavana, je répète. Ça veut dire, là je vais pousser les choses à la limite. Ça veut dire celui qui prononce la formule sans kavana, alors c'est pour ça qu'il va se donner le droit de répéter avec kavana, ça veut dire qu'il est un hérétique absolu. Ça veut dire qu'en réalité, il nie, il ne parle pas. Ça veut dire qu'il ne prend pas au sérieux qu'il est devant quelqu'un qui lui parle. Il nie. Hein? Et alors, vous comprenez, ça se passe entre lui et lui-même. Alors il l'a dit une première fois sans kavana, alors ça ne marche pas, ça ne déclenche pas l'extase. Hein? Alors il dit une deuxième fois avec kavana. Mais ça veut dire que Havruta Klapeshmaya.
Est-ce qu'on peut rapprocher du fait que lorsqu'on, par exemple, quand on mange un fruit et qu'un moment après on dit tiens, est-ce que j'ai fait la parcha ou pas? Alors on n'a pas le droit de la faire une nouvelle fois parce que si on a oublié qu'on l'a fait, c'est donc on l'a fait.
C'est-à-dire que c'est assez proche. C'est ce qu'on appelle Bracha Levatala. Hein? C'est assez proche. C'est pas exactement le même principe, mais c'est assez proche. Je crois que là il y a un point important. Hein? Ça veut dire qu'il faut prendre au sérieux le fait que dans l'entreprise de la tefila, je suis devant quelqu'un. Et devant quelqu'un, je ne me reprends pas. Et devant qui je me reprends? Devant un haver. Mais Havruta Klapeshmaya. Alors regardez jusqu'où il va dans sa réponse. Il a kaven darte meikara. S'il n'avait pas réussi à mettre la kavana au début, meikara. Mahenan le bemarzafta de napaha. On le lui fait entrer dans son crâne avec un marteau de forgeron jusqu'à ce qu'il ait la kavana. De quoi tu me parles? Il fait des exercices pour avoir la kavana. Il n'a pas la kavana du début. Avec un marteau de forgeron, il rentre la kavana. Voilà, je vais vous dire qu'elle est
là. C'était
plus simple. Les kavanas dedans
avec
le marteau
de forgeron.
Et tout ça se rattache à la Mishnah du début du chapitre. Un omnin le palais et la mito Kovel Roche. Ça veut dire qu'il faut d'abord se préparer au Kovel Roche et après il n'y a plus de question que tu répètes parce que tu fais l'exercice de Kavana. Et nous allons commencer tout de suite la Mishnah de la fin du chapitre, Amit Palel Vetaa, Simanra l'autre. Non, j'ai Srapho, je n'avais pas. Allez. Je vous demande 5 minutes parce que je vois que vous commencez vous-même à. Avec Balut Veta, qui m'a donné en l'eau. Vous n'avez pas la Khumashi. Bon, c'est celui-là, alors c'est le verset 6 du chapitre 12. Nous en avons une référence.
Du chapitre 12, quel...
Deux chapitres, pardon, la Mishnah. Alors, Hamid Palel, Veta'a, Siman, Ra, Lo. J'ai fait déjà un peu allusion tout au début de la semaine. Hamid Palel, celui qui prie, Veta'a, et il s'est trompé. Il s'est trompé, ça veut dire toujours, il a dit un mot à la place d'un autre. Veta'a. Veta'a, il s'est trompé. Je rappelle en tout cas le principe de la halakha. Là où, en fin de compte, pour la halakha, pour nous, de la haronim, là où c'est le plus grave, c'est que quand on prie pour quelqu'un. Le cas normal, pour quelqu'un, pour moi. Hein? Et tout de suite, le cas général, Veim Shaliar Tziburu, Simandra, le Sholchav. Et ici, l'envoyé de l'assemblée, le Shaliar Tzibur, le Chazan, comme on dit aussi, c'est un Simandra, le Sholchav. Nous connaissons, c'est. Parce que celui qui est envoyé par un homme est comme cet homme. Il est par délégation. Okay? Ça, on verra après en détail. Mais du point de vue de la halakha de Aharonim, si je prie pour quelqu'un, en particulier, le cas particulier, c'est de prier pour une guérison. Donc, si je prie pour quelqu'un, que je me trompe du nom de qui il s'agit, c'est Siman Ra. Alors, nous venons de lecture à ce sujet. Premièrement, Siman Ra Lo, ça veut dire c'est le signe qu'il y a du Ra en lui. Relions au sujet général du chapitre, qui est la Kavana. C'est-à-dire, celui qui on nous a appris qu'il faut Kavana, quelles sont les Kavanot, quelles sont les Kavanot interdites, etc. Et puis, en fin de compte, celui qui prie se trompe, c'est le signe qu'il n'a pas de Kavana. Et dans le sens fondamental, qu'il ne fait pas attention à ce qu'il dit, il n'est pas présent à ce qu'il fait. Okay? Donc, c'est Siman Ra Lo. C'est un signe de Ra. Ça, c'est la première lecture simple et générale. Une lecture plus profonde qu'on verra avec le Maasé de Rabbi Hanina ben Dosa. Quel Siman? C'est par ce Siman-là qu'on lui fait savoir que sa prière n'est pas acceptée. Mais vous voyez le lien. Est-ce que c'est clair, justement? Amit Palel Vetara, Siman Ra Lo. Vim, Sheliat Tziburu, Siman Ra Le Shokhav. Alors là, vous prenez tout de suite des préférences. Donc, chez moi, si vous voulez la noter, on apprend que le chaliard de quelqu'un est comme lui. Ça veut dire, dès que j'envoie un chaliard pour faire quelque chose, ce qui arrive au chaliard m'arrive à moi. Ça veut dire, il y a vraiment délégation absolue. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Par conséquent, il y a tout un problème dans la racha. Est-ce qu'il peut avoir un chaliar bidbar mitzvah? Est-ce qu'il peut avoir un chaliar bidbar avera? Et qu'il n'y a pas de chaliar bidbar avera? C'est-à-dire, lorsque j'envoie quelqu'un faire une avera, le quelqu'un en question ne peut pas dire, c'est pas moi, c'est celui qui m'a envoyé. En chaliar bidbar avera. C'est tout un problème extrêmement important. Je referme rapidement la parenthèse, mais on apprend ce principe que, si nous rochons la dame kemuto, et de la première mitzvah qui est donnée à Israël concernant le sacrifice de Pessah. Voilà le verset. Vaya, on doit préparer depuis le 10 du mois de Nissan l'agneau du sacrifice. Vaya lachem le mishmeret ab arba'a asaryom lachodesh hazé. Et vous devrez le garder, mishmeret, cet agneau, jusqu'au 14e jour du mois. Et c'était les 14 jours de l'héroïsme des Hébreux en Égypte. Déjà le 10 du mois de Nissan. Ils ont préparé des agneaux pour le sacrifice qui aurait lieu le 14. Et les Égyptiens demandaient, qu'est-ce que vous faites avec ces agneaux? Et les Hébreux devaient répondre, eh bien, cet agneau, qui est la forme du Dieu que vous adorez, cet agneau-là, nous allons le sacrifier. Ça veut dire une espèce de héroïsme énorme des Hébreux en Égypte. Imaginez la domination, la souveraineté de la société égyptienne. Et les Hébreux en exil, dans leur ghetto, commencent à aller au chouk, à acheter des agneaux. Comment? L'agneau, c'est la vache sacrée des Égyptiens, et ils disent avec une tranquillité, courage, héroïsme. Hein? Oui, votre Dieu, c'est lui qui va être le sacrifice. Hein? Pendant 4 jours, il est arrivé cet énorme miracle, c'est lié au Shabbat Agadol. Hein? Puisque le 10 du mois de Nissan de l'année de la sortie d'Égypte, comme de l'année de la guerre des 6 jours d'ailleurs, c'était... Le 10, c'était Shabbat Hassan Lachodé, c'était le Shabbat Agadol.
Il y en a pas entre deux?
Oui, bien sûr. Une espèce de courage énorme. Hein. le Shabbat Gadol est appelé Shabbat Gadol à cause de Nes Gadol que les Égyptiens auraient pu détruire les Hébreux entre le 10 et le 14 et ils ont eu peur, ils n'ont pas touché, ils disent Chutzpah monumental, qu'est-ce que c'est? Vous voyez à peu près, j'essaye d'expliquer l'atmosphère de ce point. Donc, et ensuite, Veshachatu Oto, Kol Keal Adat Israël Ben Arwaï. Et toute l'assemblée de l'assemblée d'Israël, Shahatou, donc.
Sacrifiera.
Lisboa.
Immolera.
Ben Arbaïm, à la fin de l'après-midi, s'appelle Ben Arbaïm. Donc. Et alors, Rashi, la Gemara de Kiddushin, si je me souviens bien, Kehal Adat Israël. Non, c'est pas là. Veshachatoto, juste avant. Vechi Kulan Shahatim. Et est-ce que tout le monde a le droit de faire la shrita, seuls ceux qui savent faire la shrita, à la limite. Et le Kohen fait la shrita. Okay? Et là, Mikan, Shashinuch, Rochel Adam, Kemuto. De là, nous apprenons qu'il y a une délégation qui est donnée au Shochet, et que le Shochet, qui est le Shaliach, est Kemuto. C'est clair? De là, on apprend. Fin de la 10e bande.